Comme tous les lundis, on va retrouver notre ami Daniel Habert. Vous savez, Daniel Habert, c'est un géopolitologue, notre géopolitologue maison, avec Isaac Franco notamment. Et chaque semaine, il a des conversations avec notre ami Blaise van der Linden. Alors, cette semaine, ces conversations sont tournées vers des sujets intéressants, puisque les Américains sont centrés sur leur anniversaire et sur la Coupe du Monde. Les Iraniens, eux, célèbrent ou commémorent, si vous voulez, les funérailles d'Ali Khamenei, on vous en parlait dans le journal. Alors, est-ce que les négociations pendant ce temps passent au second plan? Eh bien, c'est toute la question que Blaise van der Linden a posée à Daniel Habert et dont voici la réponse.
Daniel Habert, bonjour.
Bonjour Blaise, bonjour chers auditeurs.
Merci d'être avec nous ce matin sur Radio Judaïka pour nos conversations du lundi matin. Alors Daniel, on a vécu un week-end assez torride. Hein. Les Américains ont célébré leurs 250 ans et de leur côté, les Iraniens ont célébré, eux, les funérailles d'Ali Khamenei. Ça a commencé samedi et ça aurait rassemblé plus de 20 millions de personnes uniquement à Téhéran. Alors est-ce qu'on est en suspens en termes de négociations ?
Oui, chacun des deux parties est bien d'accord pour laisser l'autre tranquille. Et ça fait du bien que dans un conflit, chaque partie s'occupe d'abord de l'intérieur. Ça permet de calmer les choses d'une certaine manière. Mais les négociations, évidemment, elles continuent. Ce sont des négociations complexes, multiples. Et donc, notre rôle ici à Conversation, c'est de tenter d'y voir clair. Commençons par la situation. Quatre points. Il faut se rappeler quand même que depuis le début du conflit, donc depuis le 28 février, enfin de cette phase du conflit, on a eu 40 jours de guerre et on a déjà 80 jours et plus de cessez-le-feu. Donc on est vraiment dans une logique de chercher une sortie, chercher un compromis, et on voit bien que chacune des parties a décidé de le faire. La période de conflit a été extrêmement destructrice sur le plan matériel et économique, aussi bien chez les Iraniens que même chez les pays du Golfe et les bases américaines et même en Israël. Donc, au fond, chacun se dit. Essayons de voir si une négociation peut pas obtenir plus que le conflit. Et on voit bien que chacune des deux parties en a décidé ainsi. C'est en particulier clair pour Trump, qui avait le choix entre quitte ou double, et on a vu la semaine dernière que doubler la mise, c'était simplement pas possible juridiquement et politiquement pour Trump. Et quant aux Iraniens, ils sont quand même tellement touchés par ce qui leur est arrivé, qu'ils sont plutôt en mode survie et que leur principal objectif aujourd'hui, c'est de trouver de l'argent. Donc voilà, ça c'est deux situations principales. Je rappelle qu'il y a trois négociations en cours, une sur le nucléaire, une sur la libération du détroit d'Ormuz et une sur le Hezbollah, la tentative des Iraniens de sauver le Hezbollah. Et au fond, quatrième situation qu'on peut décrire, c'est que les trois négociations n'ont pas le même horizon de temps. La négociation sur le nucléaire, au fond, elle n'est pas urgente. Ça, c'est le principal. Elle n'est pas urgente du point de vue ni d'Israël ni des Américains, parce que ce qui a été détruit est suffisant pour retarder de plusieurs années le programme nucléaire, donc il n'y a pas de danger immédiat. Il a été écarté le 28 février, donc c'est quand même un des résultats très positifs qui confirme ce qui s'était fait au mois de juin 2025. Là, on a une petite temps de tranquillité. Quant aux Iraniens, ils ont découvert que au fond, ils avaient une arme de dissuasion aussi intéressante que le nucléaire, qui était la possibilité de fermer le détroit d'Ormuz et puis ces drones qui peuvent faire du mal Donc leur capacité de dissuasion n'a pas besoin absolument d'avoir des bombes atomiques. Et donc ça permet aux deux parties d'envisager, de se donner le temps des négociations. Voilà, c'est un peu ça la la situation. Juste un mot sur le Hezbollah. Lui aussi, il a du temps. Il contrôle assez bien la situation. On voit bien que le gouvernement libanais est incapable de tenir ses engagements et que personne n'est prêt à les l'aider, sauf Israël. Et donc voilà, c'est le troisième horizon de temps. Donc voilà, voilà un petit peu la situation.
Ouais. Alors, quoi qu'en dise le président américain Donald Trump, il reste des obstacles, hein, Daniel. Que sont-ils ces obstacles et quelles sont les perspectives?
Alors, je dirais que globalement, les obstacles sont si nombreux que ce qui doit dominer chez nous dans l'appréciation de la situation, c'est le pessimisme. Je crois qu'on ne peut pas s'attendre à une sortie de crise claire. Je crois qu'on n'aura pas d'accord. On peut pas signer de traité de paix avec un régime totalitaire au fond. On n'aurait pas pu signer la paix avec Hitler. On signe pas la paix avec des totalitaires parce que tout simplement c'est pas possible. Donc il faut accepter l'idée donc qu'il y aura autre chose qu'une paix, qui sera probablement l'idée qu'on peut vivre sans traité avec un Iran très affaibli, dont le régime a relativement changé et qui va continuer certainement à évoluer et qu'il faudra suivre ça de près et que de toute façon du côté occidental il faut attendre et les élections à mi-mandat en novembre et les prochaines élections israéliennes pour pouvoir prendre un certain nombre de décisions. Alors, vous me parliez des obstacles. Le principal obstacle, c'est l'entêtement des régimes totalitaires. Ils ne cèdent jamais. Les fanatiques ne cèdent jamais. C'est le propre même du fanatisme. L'autre obstacle, il est chez nous, c'est la faiblesse des démocraties. Toutes les démocraties sont faibles, sont toutes prêtes à apaiser les totalitarismes. Ça s'est vu avant la Deuxième Guerre mondiale, ça se voit à nouveau ici. Et le seul pays qui est à la fois lucide et qui a une force d'âme et qui est prêt à se battre, c'est Israël. Et c'est d'ailleurs pour ça que toutes les démocraties, notamment les démocraties faibles européennes, lui tombent dessus. C'est parce qu'il l'envie. Ils sont jaloux de cette capacité israélienne d'avoir de la lucidité et de la force qu'ils n'ont plus, et c'est pour ça qu'ils lui tombent dessus. Le troisième obstacle, c'est que, mais c'est aussi un potentiel d'ailleurs, c'est que les gardiens de la Révolution ont besoin d'argent. Ils ont besoin d'argent, de beaucoup d'argent, et donc ils vont tenter de rançonner au maximum les Américains et les pays du Golfe. L'argent, il y en a. Il y a de l'argent qui appartient aux Iraniens, c'est les avoirs iraniens qui sont bloqués dans le monde. On parle de 100 milliards. Il y en a 24 milliards qui sont bloqués au Qatar. On peut en débloquer 24, 12, 6, 3. Vous voyez, c'est une discussion actuelle sur le détroit d'Ormuz. Combien on va payer pour qu'on libère le détroit? Ils ont pris un otage et ils le libèrent contre de l'argent. Trump est prêt à leur accorder l'argent du pétrole, parce que c'est intéressant pour tout le monde que le pétrole coule et que les prix à la pompe baissent. Et puis, la vraie question, c'est la levée des sanctions qui, là, rendrait l'Iran riche, mais qui nous enlèverait un levier. Et donc ça va être très important pour la suite des opérations. Mais ce qu'on peut dire ici sur l'argent, c'est que les Américains, les pays du Golfe, sont prêts à payer. Les Américains, parce que c'est pas eux qui payeront, ça sera plutôt les pays du Golfe, et les pays du Golfe parce qu'ils ont assez d'argent et qu'ils sont faibles, donc ils sont prêts à payer la paix. Voilà. Quant au Hezbollah, c'est lui le grand obstacle parce que lui, il n'a jamais perdu de vue qu'il veut transformer le Liban en république islamique et qu'il va continuer à se battre jusqu'au bout. Donc ça fait quand même, oui, beaucoup beaucoup d'obstacles.
Oui, Daniel, ça fait beaucoup d'obstacles, hein, ce que vous énumérez. Très rapidement, parce qu'il nous reste une petite minute. Que peut-on attendre? C'est pas très optimiste, votre discours.
Oui, on peut très bien ne pas avoir d'accord de paix et vivre dans une situation ni guerre ni paix, ce qui était d'ailleurs le cas avant le 28 février. Et il y a beaucoup d'endroits dans le monde où on vit sans guerre, sans paix. Regardez la Corée, les deux Corées n'ont toujours pas signé de traité de paix. Entre le Japon et la Russie, toujours pas de traité de paix. Et on peut vivre comme ça des décennies sans traité, simplement de facto. Moi, je crois que les perspectives sont simples. Le détroit d'Ormuz va s'ouvrir. Il va s'ouvrir parce que tout le monde y a intérêt. Et le pays qui a le plus intérêt, c'est la Chine. Donc la Chine pèse de tout son poids pour que ça s'ouvre. Donc ça va s'ouvrir, et la seule et assez rapidement d'ailleurs. Et entre parenthèses, il est déjà ouvert. C'est-à-dire qu'il y a énormément de bateaux qui passent. Il suffit qu'ils passent tout près des côtes iraniennes. Ils payent ou ils payent pas, on saura jamais. Et de toute façon, ça appartient à chacun de décider. Mais le principal, c'est que le pétrole coule, et il coule. Donc il y aura la libération du détroit d'Ormuz, et on ne sait pas combien ça coûtera aux pays du Golfe et aux Américains pour que ça passe, mais ça passera. Quant au nucléaire, au fond d'un mot, probablement que les Américains, j'espère que les Israéliens les convaincront, trouveront qu'il vaut mieux pas d'accord sur le nucléaire et le maintien des sanctions, plutôt que la levée complète des sanctions contre un accord sur le nucléaire dans lequel, au fond, le principal, c'est la confiance dans les Iraniens. Et les dernières interventions de l'ancien patron du Mossad, Yossi Cohen, sont très claires. On peut pas faire confiance aux Iraniens, et il sait de quoi il parle.
Et évidemment, on aura l'occasion d'en parler. Merci beaucoup, Daniel Habert, d'avoir été avec nous ce matin. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles conversations.
Au revoir.